Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, monsieur, bonjour. La qualification de Léopard pour la huitième des finales de la CAN, on en parle encore. Le sujet fait la joie de l'ensemble des supporters. Nous nous focalisons sur deux d'entre eux, des Congolais de renommée internationale présents au stade hier à Rabat. La violence sexuelle contre les enfants, le nombre va croissant en RDC et pas que dans les zones de conflit. Au moins 35 000 cas recensés au cours de 9 premiers mois de cette année. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de l'UNICEF publié aujourd'hui. Avec Christian Mokina et chef de la division provinciale de l'urbanisme au Kasaï central, nous nous pencherons sur ces constructions anarchiques à la base des érosions dans la ville de Kananga. Bienvenue à cette édition du journal de midi, la dernière de cette année 2025. Nous parlons d'abord sport. À la CAN Maroc 2025, les Léopards de la RDC se sont imposés hier mardi face au Botswana sur le score de 3-0 à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupe. Avec ce résultat, la RDC termine deuxième de sa poule derrière le Sénégal. Elle affrontera l'Algérie en huitième de finale le 6 janvier prochain. Cette victoire a suscité de nombreuses réactions parmi les supporters, dont deux grandes figures congolaises de la musique reconnue à l'international et qui ont été présentes au stade. Leurs impressions ont été recueillies à l'issue de la rencontre. Le point avec vous, Vanessa Kongolo.
Les Léopards n'étaient pas seuls. Dans ces stades de Moulay Abdallah de Rabat, ils étaient avec deux fans venus nombreux pour apporter leur soutien à l'équipe de la RDC et parmi eux, Maître Gims qui n'a pas caché sa satisfaction après cette victoire.
Ah, magnifique, magnifique. C'est surtout surprenant de voir autant de Congolais qui se sont déplacés ici. Ça fait vraiment plaisir. Il y avait une superbe ambiance et on est content, on a gagné. 3-0.
Il n'y avait pas que Gims. Une autre star de la musique congolaise, Youssoufa, était également au stade. Et lui promet en tout cas un double album au cas où la RDC réussissait à gagner cette CAN, mais aussi s'est qualifiée pour la Coupe du Monde à mars prochain.
Il y aura pas un son, il y aura un album.
Déjà, je parle tout le temps du Congo alors qu'on n'a pas gagné la CAN. Alors si jamais on gagne, mon frère, imagine une année où on gagne la CAN et on va en Coupe du Monde. Là, j'arrête la musique, là, frère. Bon, je fais un dernier album, double album, juste pour vous et après j'arrête.
Cette troisième journée de la phase de groupe de la CAN va se clôturer ce mercredi 31 décembre 2025 avec 4 matchs à l'affiche. 2 du groupe F, la Guinée équatoriale affronte l'Algérie, le Soudan du Sud jura contre le Burkina Faso, les Gabons déjà éliminés affrontent les champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, et puis le Mozambique jouera contre le Cameroun.
Alors avec tous les supporters de la RDC, hein, nous disons allez-y les Léopards. Nous sommes à Goma à présent, dans la province du Nord Kivu. La population a vibré hier mardi au rythme du tout premier festival artistique Sauti ya Mitindo, qui signifie la voix de la mode. Organisé par Alinda Fashion House Academy, une initiative portée par Madame Sifandaliko, cet événement entend faire de la couture un outil de résilience et d'autonomisation dans une ville à forte vocation touristique. L'objectif affiché est de renforcer les capacités d'une communauté éprouvée par les conflits armés, les violences et les crises humanitaires successives. Le festival a également servi de cadre à la remise officielle des certificats de fin de formation en couture de base à plus de 70 jeunes femmes. Les habitants de Goma présents à cette célébration ont partagé leurs impressions, recueillies ici par Bernardine Diambo.
C'est le monde entier qui connaît que Goma n'existe plus, mais au moins à travers l'art, à travers la mode, à travers la couture. Mais aujourd'hui, on nous amène les habits cérémoniaux des robes des mariés, confectionnés localement par le fille de la ville de Goma. Donc c'est une fierté nationale.
J'avais vu sur les réseaux, j'étais directement intéressée vu que j'aimais vraiment la couture et je me disais que je dois atteindre mon but. Mon but était d'apprendre, de confectionner moi-même, avoir la base et continuer et me développer beaucoup.
Oui, nous sommes très très contents de la décision que notre fille a choisie de faire la couture. Nous l'encourageons.
Oui, à Goma, il y a la vie. Par rapport à d'autres milliers, moi j'envie toujours Goma.
Je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis, c'est pas seulement la guerre qui se passe à Goma, mais il y a des arts cachés à Goma.
Je trouve que même ici, ils sont tellement résilients, même dans la guerre. Je vois vraiment que les gens sont pas trop troublés par la guerre. Oui, les gens souffrent, mais ils savent qu'il faut continuer. On peut pas rester s'apitoyer de son sort.
Les bénéficiaires de cette formation disposent désormais des compétences nécessaires pour créer leur propre marque Made in DRC, illustrant comment la créativité peut devenir un véritable outil de survie et de reconstruction. En défilé de mode, accompagné d'une exposition de tenues cérémonielles et de robes de mariée, a animé la scène dans une ambiance à la fois festive et engagée. La violence sexuelle contre les enfants est un problème endémique et systémique qui ne cesse de s'aggraver en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de l'UNICEF publié aujourd'hui. Si le conflit continue de jouer un rôle majeur dans cette situation, ce rapport démontre aussi qu'aucune province n'est épargnée et que le nombre de cas a nettement augmenté depuis 2022. Comme l'illustre le rapport, les données compilées à l'échelle nationale par les fournisseurs des services de protection et de lutte contre la violence liée aux genres font état de plus de 35 000 cas de violences sexuelles, prenant des enfants pour cible recensés au cours de 9 premiers mois de 2025, signe que la crise continue de s'intensifier. En 2024, le pays avait enregistré près de 45 000 actes de violences sexuelles commis contre des enfants, soit presque 40% de l'ensemble des cas signalés et trois fois plus qu'en 2022. Les grandes lignes de ce rapport avec vous, Alain Rung.
Ces chiffres mettent en évidence un préjudice généralisé et ancré durablement, avec un bilan réel certainement bien plus lourd du fait des défauts de signalement, bon nombre des victimes étant dans l'impossibilité de se faire connaître ou de demander de l'aide en raison de la peur, de la stigmatisation, de l'insécurité et de l'accès limité aux services requis. Les travailleurs sociaux racontent qu'il faut parfois plusieurs heures aux mères pour accompagner à pied leurs filles jusqu'à un centre de santé, alors que ces dernières ont subi une agression et ne sont plus en mesure de marcher. Au dire des familles, la peur de la stigmatisation et des représailles les empêche souvent de signaler les actes de violence, a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Et les témoignages sont les mêmes d'une province à l'autre, signe qu'il s'agit d'une crise profonde alimentée par l'insécurité, les inégalités et le manque de robustesse des systèmes de soutien. Les différents schémas qui se dessinent selon les provinces révèlent la nature de cette crise. La plupart des cas sont concentrés dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, où le conflit, les déplacements et la fragilité des systèmes de protection engendrent un risque extrême.
Dans la province de la Tchopo, l'association des professeurs de l'université de Kisangani à Pukis exige la libération immédiate et sans condition du professeur Jean-Claude Pandatimo Biganga. Celui-ci a été condamné le 6 octobre 2023 par la cour d'appel de la Tchopo à 12 ans de servitude pénale principale dans une affaire l'opposant à son ex-épouse. Le professeur Pandatimo s'était pourvu en cassation le même jour, sollicitant l'annulation du jugement de première instance. L'affaire a été instruite, plaidée et prise en délibéré le 22 janvier 2024. Et depuis cette date, la Cour de cassation ne s'est toujours pas prononcée. Face à ce silence judiciaire, la Pukis se tourne désormais vers la Cour constitutionnelle afin qu'elle dise le droit. Une pétition en ce sens a été présentée hier à la presse par le président de l'association à Kisangani à l'issue d'une assemblée générale. Les propos du professeur Jean-Pierre Lifoli et Baléa ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Sans motif valable pour la Cour de cassation de rendre son arrêt dans cette affaire, a porté délibérément atteinte aux droits fondamentaux du professeur Jean-Claude Pandatimo, à bénéficier d'une justice juste, équitable et impartiale. Bien plus, certains acteurs politiques et membres des gouvernements national et provincial ont donné des injonctions au juge président de la Chambre, cadre d'un parti politique de son État et candidat malheureux à l'élection législative nationale de 20 décembre 2023. Selon les rapports médicaux émanant de l'administration pénitentiaire, l'état de santé physique et psychique du professeur Jean-Claude Pandatimo devient de plus en plus alarmant. Eu égard à tout ce qui précède, la Pukis exige ce qui suit. 1. La libération immédiate et sans condition du professeur Jean-Claude Pandatimo, détenu depuis 818 jours. 2. La prise en charge médicale urgente du professeur Jean-Claude Pandatimo par le gouvernement de la République.
En Ituri, la situation reste confuse. Ce mercredi à Boulé, territoire de Djougou, des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP, ont été aperçus dans ce centre de négoce situé à 95 km de Bounia après leur retrait hier. Par ailleurs, plusieurs sources concordantes affirment avoir entendu des détonations d'armes lourdes toute la nuit dernière jusqu'à ce matin dans cette localité. Martial Kizabiamungo nous fait le point.
C'est dans la mi-journée d'hier que les éléments de la 11e brigade de réaction rapide de FARDC ont consolidé leur position dans les centres des Boulets et ses environs après le retrait de la cité de miliciens de la CRP. Selon les porte-paroles de l'armée à l'Ituri, l'objectif est de remettre de l'ordre dans cette entité sous menace de ces miliciens qui, selon lui, utilisent des enfants EVR à majorité de déplacés comme boucliers humains. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Et donc ça, nous avons condamné tout d'abord l'utilisation des enfants déplacés, les femmes déplacées dans le rang de la CRP, de Thomas Lubanga. Les images ont été claires et nous avons dit, pour mettre notre population à l'abri, nous avons utilisé la stratégie militaire.
La nuit dernière, ces miliciens de la CRP ont de nouveau attaqué des positions des forces loyalistes dans ces centres de négoces où ils se sont de nouveau installés. Témoignage de cet habitant déboulé.
Les jours sacrés, précisément vers l'hôtel Gralac, la force CRP est venue encore la nuit après repousser la FARDC du stade.
À ce stade, aucun bilan des combats d'hier n'est disponible. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous sommes au Kassai-Oriental. Les habitants de Mbujima poussent un ouf de soulagement. Après plusieurs semaines de coupure, l'électricité est enfin rétablie dans de nombreux foyers abonnés à la Société Nationale d'Électricité SNEL. Le transformateur tombé en panne le 13 novembre dernier a été remplacé la semaine passée, permettant une reprise durable de la fourniture en énergie. Ce nouvel équipement contribue également à améliorer la desserte en eau potable de la ville de Mbujima. Explication avec vous, Esther Dalafina.
Les festivités de fin d'année s'annoncent désormais dans la joie. Les quartiers plongés dans les noirs ou soumis à un programme strictement de délestage retrouvent la lumière. Les enfants heureux refusent de quitter la télévision profitant de ce retour de courant tant attendu.
Regarde Barbie, les dessins animés, les choses des enfants, plus aussi les calculs mathématiques.
L'ambiance est palpable sur la terrasse Kingakati à l'entrée du camp scellé. La population célèbre son propriétaire, Gédéon Kapiamba, a tenu à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans la résolution de ce ban.
Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On a rétabli le courant, vraiment. On n'avait pas l'heure, on n'avait pas du courant, vraiment. On n'avait pas de frais.
Le directeur régional de la Régie des Eaux, Didier Mboudilelo, confirme que la remise au service du transformateur améliore également la distribution en eau potable. Une double victoire pour les habitants qui voient leur quotidien facilité.
On va remplir les réseaux, on va rétablir l'horaire pour servir chaque jour. Donc, l'histoire des jours c'est fini.
Avec l'énergie revenue, certains habitants préparent déjà des décorations lumineuses pour embellir leur maison et célébrer les fêtes de fin d'année. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Kapi.
Dans l'autre Kassai, Kananga, chef-lieu du Kassai central, de nombreuses habitations sont érigées en violation de normes urbanistiques en vigueur. Selon des spécialistes de l'environnement, cette situation favorise l'apparition de nombreuses têtes d'érosion qui menacent différents quartiers de la ville. Ces constructions anarchiques se retrouvent souvent dans des zones inappropriées, ne disposant pas de système adéquat d'évacuation des eaux de pluie. La société civile locale accuse les services de l'urbanisme de ne pas assumer pleinement sa mission d'organisation du territoire. Qu'en est-il, André Katende?
À Kananga, plusieurs maisons sont construites sans respect des normes urbanistiques. La société civile locale pointe du doigt les services de l'urbanisme censés assurer la planification de la ville. André Moujani, coordonnateur provincial du mouvement citoyen Filimbi au Kassai central, dénonce une situation qu'il juge préoccupante.
Aujourd'hui, si vous parcourez les quatre coins de la ville, vous verrez que plusieurs sites qui étaient verts, il y a des maisons qui ont poussé. En tout cas, l'urbanisme doit faire son travail.
Pour sa part, Crispin Mukinaï, chef de la division provinciale de l'urbanisme, affirme que certains services techniques, notamment le cadastre et le CUPEC, ainsi que des autorités locales, délivrent des autorisations de bâtir sans consulter sa division.
Il donne des autorisations sans avoir l'aval de l'urbanisme. Or, tout doit commencer par l'urbanisme. L'urbanisme doit étudier. Après, il décante la situation, d'autres services vont faire. Mais actuellement, ce n'est pas ça.
Crispin Mukinaï ajoute que sa division avait envisagé d'étendre la ville en attribuant des terres dans les villages environnants. Cependant, les populations refusent de s'y installer, préférant demeurer au centre-ville. Kananga, André Katindengala Mouloumé, Radio Okapi.
Nous retrouverons Crispin Mukinaï, chef de la division provinciale de l'urbanisme, un peu plus tard, puisqu'il est notre invité. L'industrialisation, la création massive d'emplois et la diversification de l'économie nationale étaient au centre de la réunion du comité de pilotage des zones économiques spéciales, ZES, présidé hier mardi à Kinshasa par la première ministre, tenue au bâtiment administratif de la ZES de Maluku, dans l'est de la capitale. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Plusieurs membres du gouvernement y ont pris part, notamment les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de l'Économie, les ministres d'État du plan de la formation professionnelle, de l'urbanisme et habitat, ainsi que le ministre intérimaire de l'industrie. Des précisions dans ce reportage d'Alain Irung, rendu ici par Ronelli Intibonera.
Cette réunion, présidée par la chef de gouvernement en sa qualité de président des 10 comités, s'est distinguée par son caractère opérationnel et inédit en s'étendant directement sur les sites même de la zone économique spéciale de Maluku, considérée comme une zone économique spéciale pilote de la politique nationale d'industrialisation voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Selon le ministre d'intérim de l'Industrie, Justin Kalumba, chaque membre du gouvernement a été placé face à ses responsabilités, non pas de manière théorique, mais sur la base d'une matrice claire d'action, d'échéance et d'indicateurs de performance afin d'assurer un suivi rigoureux des engagements pris. Ce déplacement de la première ministre pour une évaluation physique de la zone économique spéciale pilote de Maluku intervient dans un contexte d'accélération de ses projets stratégiques. Les premières installations significatives ont démarré en 2020, ouvrant une nouvelle phase opérationnelle. Le gouvernement souminois s'attache désormais à donner une impulsion décisive et à accélérer les rythmes des réalisations conformément aux engagements du programme d'action gouvernementale et de la vision du président de la République pour transformer pleinement ses potentiels en résultats industriels concrets.
Actualité internationale.
Protestation en Somalie après la reconnaissance du Somaliland le 26 décembre dernier par Israël. La région séparatiste a autoproclamé son indépendance en 1991, mais n'était jusqu'alors reconnue par aucun pays. Sa reconnaissance par Israël a entraîné une pluie de condamnations. Le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a dénoncé la plus grande des violations contre la souveraineté de son pays. Et ce 30 décembre, des manifestations ont eu lieu à travers le pays pour s'opposer à cette reconnaissance.
L'invité.
Comme vous l'avez dit, de nombreuses habitations sont construites à Kananga en violation des normes urbanistiques en vigueur. Selon des spécialistes de l'environnement, cette situation est à l'origine de plusieurs têtes d'érosion qui menacent le chef-lieu du Kasaï central. Pour en parler, nous recevons Crispin Mukinae, chef de la division provinciale de l'urbanisme. Il s'entretient avec André Katende Ngalamoulumi.
Monsieur Crispin Mukinae, bonjour.
Bonjour, papa.
Dites-nous un peu, selon vous, qu'est-ce qui fait que la construction anarchique puisse devenir aujourd'hui un fléau à Kananga?
Ça devient un fléau puisque les gens construisent sans pouvoir tenir les normes urbanistiques. Nous avons un service, l'EQIPEC, qui est dans l'urbanisme, mais qui ne tient pas compte de l'urbanisme, qui ne vient même pas auprès de l'urbanisme. Quand il reçoit l'argent, il autorise. On construit n'importe où. Vous trouverez des maisons auprès des érosions. Mais qui vous a donné l'autorisation? C'est l'EQIPEC. Voilà, c'est une difficulté. Nous avons décrié, nous avons demandé.
Est-ce que ce n'est pas l'urbanisme qui autorise la construction?
Non, non. C'est l'EQIPEC qui autorise la construction, pas l'urbanisme.
Si on peut bien comprendre, ces autorisations sont données sans l'aval de l'urbanisme.
Effectivement, il ne passe même pas à l'urbanisme. Avant d'autoriser, il faut connaître le milieu, c'est où, ou bien il appartient à qui. Pour eux, ils visent l'argent. Or, des lieux qui ne peuvent pas être construits. Même les chefs quartiers, les chefs d'avenir, commencent à donner aussi des terrains sans pouvoir passer par l'urbanisme. Il y a des concessions. Vous avez votre concession aujourd'hui. Et demain, vous mettez cette concession en parcelle. Vous devenez distributeur sans que l'urbanisme le sache. Le service de cadastre se fait responsable des terres puisqu'il devient le distributeur des terres sans avoir l'aval de l'urbanisme. Or, tout doit commencer par l'urbanisme. L'urbanisme doit étudier. Après, il décante la situation. D'autres services vont faire comme cadastre, affaires foncières. Mais actuellement, ce n'est pas ça. Vous êtes au bureau, vous vous attendrez que les cadastres donnent des terrains, peut-être à l'engrance, sans que nous le sachions. Comment est-ce que l'urbanisme peut faire maintenant pour suspendre ces travaux par après, or ils ont déjà des documents. C'est ça la difficulté que nous avons.
Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette hémorragie des constructions anarchiques à Kananga?
Effectivement, pour arrêter cette situation, tout agent ou toute personne qui a besoin d'avoir
un terrain ou de construire doit passer par l'urbanisme. L'urbanisme doit être sur terrain pour étudier encore c'est convenable ou pas. On autorise aussi d'une manière désagréable puisque on ne tient pas compte des eaux de pluie qui viennent. Il n'y a pas de canalisation. On ne peut pas construire comme ça. Ça dépend de l'urbanisme qu'on doit commencer à travailler.
Alors, dites-nous, la ville est surpeuplée par rapport aux temps anciens. Alors, quelle solution l'urbanisme trouve pour éviter les constructions anarchiques? Parce que plus les gens sont nombreux, plus ils construisent partout.
Nous avons des terrains à Benamande, à Matamba, à Toubouloukou. Il y a des terrains que les gens peuvent construire et se mettre là-bas. Quand vous leur dites de venir ici, vous êtes venu ici, nous vous donnons un terrain, puisque là où il est, il y a une érosion. Il dit, oh, allez où? À Matamba ou à Benamande? C'est en brousse. Tous les gens là veulent venir vers toujours la ville. La ville doit être surpeuplée. Il y a des camps qu'on peut mettre des gens. Il y a des terrains, il y a des espaces à développer notre ville ici. Il faudrait qu'on songe à ça, développer la ville. Mais les gens qui y mettent, qui sont là-bas, là où ils sont, ils ne veulent pas encore quitter. Mais il y a des érosions là où ils sont. Là où ils sont aussi, près des érosions, les eaux là n'ont pas de place à aller.
Alors qu'est-ce qui empêche le service d'urbanisme de déguerpir ces gens-là qui sont à des endroits non appropriés?
Nous avons déjà fait des propositions. Des propositions faites déjà auprès de l'autorité. S'il pourra accepter, on va les déguerpir pour leur donner d'abord des places au-delà. C'est ça la situation. Une solution plus simple, c'est ça.
Monsieur Crispin Mukinaï, nous rappelons que vous êtes chef des divisions de l'urbanisme au Kasaï Central et nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, papa.
Merci vraiment à vous, André Katindinga Lamouloumi. Et merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Alain Rung et Élisée Tchikota-Tchivita avec Jean-Claude Siala à la technique. Bonne fête, la Saint-Sylvestre, paix et bonheur à vous et à vos familles pour 2026.